Session de théologie par le Père Philippe à Saint-Jodard, le 28 août 1991.
Demain, il y aura un petit changement d'horaire. Je vous avertis. Parce qu'il y a une profession perpétuelle. Donc la messe sera mise en fin de matinée et la conférence à 9h15. Pour ceux qui se lèvent tard, n'est-ce pas, je vous avertis. Heureusement que le petit déjeuner est avant. Alors comme ça, ils seront là. Il y aura la profession perpétuelle. Donc la messe sera un peu plus longue, parce que la cérémonie est un peu plus longue, mais c'est l'avantage de faire une session dans un cadre religieux et monastique. Et puis vous verrez que l'après-midi, il y aura aussi des petits changements, parce que je suis obligé, demain soir, de m'absenter, de partir vers 6h30, 7h, faire un bond rapide à Rome. Célébrer avec le Saint-Père, étant donné que nos sœurs apostoliques ont une petite audience spéciale et familiale. Je serai de retour pour l'après-midi, c'est-à-dire vers 5h, 4h, 4h30, 5h. Alors on changera les heures. Vous verrez, tout ça sera affiché, mais feu rouge, pour que vous voyez bien, question de carrefour et une question de conférence, pour que vous pâtissiez le moins possible de ce petit changement. C'était pas prévu. Si j'avais prévu, j'aurais demandé de changer les heures, mais ça a été décidé indépendamment, et alors fait ce qu'on peut. Vous prierez pour ça, parce que c'est quand même. Je prierai pour vous. Je dirai au Saint-Père qu'il y a une session théologique à Saint-Jodard. Et donc il les bénit spécialement tous. Et il vous bénira tous d'une façon très particulière. Vous savez, au moins vous aurez ça comme avantage. Ce soir, je continuerai de voir quelques personnes qui désirent me voir. Parce que, forcément, ça limite le temps. Nous allons continuer cette question, ce mystère. C'est un mystère. Philosophiquement, vous ne pouvez rien dire sur Adam et Ève. Toujours se rappeler ça. Adam et Ève, c'est dans la foi que j'y crois. Et au plan philosophique, ça n'a pas de sens. Je ne sais absolument pas comment l'homme est apparu sur notre planète. On donne des hypothèses. Très bien, mais ce ne sont pas des certitudes. Vous savez bien que toute la théorie de l'évolution est remise en cause par les meilleurs savants. Et tous disent on a exagéré, on a été beaucoup trop loin. C'est très très intéressant ces choses-là. C'est ça que je veux dire que la science varie. Elle est relative, la science, essentiellement. Alors, toute la théorie d'évolution est remise en cause d'une façon très sérieuse, déjà restant à la fin de sa vie. Je ne l'ai pas connu personnellement. Je connais, je peux dire, son meilleur ami, celui qui était son meilleur ami, celui qui était parrain de ses fils. Vous savez que Rostand avait épousé une femme très profondément chrétienne et catholique, de sorte que ses enfants étaient tous catholiques. Il suivait des cours sur Saint Thomas que je tenais à Paris. C'était du côté mathématique, point de vue scientifique. Et à la fin de sa vie, il l'a dit. Je crois qu'il faudra reprendre entièrement la théorie sur l'évolution. Et c'est intéressant parce que ça ne se dit pas beaucoup, hein. Parce que vous comprenez que ça va faire du remous. Quand, de fait, on reconnaîtra qu'il y a des aspects, certains points. Mais je me souviens personnellement avoir dû faire la recension sur un livre qui venait du Canada, dont je connaissais très bien celui qui avait était directeur de thèse, théorie de l'évolution au plan scientifique, philosophique, théologique. Alors j'ai voulu faire la chose très sérieusement, ça m'intéressait. Et j'ai consulté toute une série de savants. Je pouvais le faire facilement. Et je voyais qu'au fond, quand on voulait préciser, est-ce que c'est une théorie qui est philosophique ou scientifique, les uns disaient c'est philosophique, d'autres disaient c'est scientifique. Ça basculait des deux sens. Alors ça m'intéressait beaucoup, plan philosophique, vous comprenez. Et alors, on voit très bien, quand on voit l'origine de cette théorie, que les intentions n'étaient peut-être pas très pures. Mais ça a marché, de façon étonnante, à tel point que certains, quand on dit qu'on met un point d'interrogation sur l'évolution, vous dites, mais c'est impossible. C'est une théorie dite scientifique ou dite philosophique. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on assiste, de fait, parce qu'il y a eu déjà des livres extrêmement sérieux écrits en anglais sur ce problème, en montrant que, de fait, critiquant. Je dis ça, c'est parce que c'est important pour nous de ne pas nous laisser prendre, parce que les lendemains sont toujours catastrophiques. Il ne faut pas baptiser la théorie d'évolution. Surtout pas. Au nom d'une position qui serait apologétique. Ce serait très dangereux. Ça m'a toujours beaucoup étonné de voir quelqu'un comme Rostand disant lui-même ça. Ça, j'en suis sûr. Disant lui-même ça à son ami, à meilleur de son ami. Je suis trop vieux, moi, mais si j'étais jeune, je reprendrais tout. Alors qu'il avait été très loin dans la position d'évolution. C'était toute sa vie, presque. Alors, Adam et Ève n'ont de signification que pour le croyant. Et Adam et Ève ont pris une signification au plan théologique d'autant plus grande que Jésus est le nouvel Adam et Marie la nouvelle Ève. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, on peut dire que le nouvel Adam, ça, c'est dans la révélation. La nouvelle Ève, c'est Saint Justin, Saint Irénée. Irénée, disciple de Polycarpe, disciple de Jean. Et Irénée, à Lyon. Donc, toute la théologie en France a un point de départ johannique. Il ne faut pas l'oublier. Alors je voudrais, avec vous, continuer un peu cette lecture de ce chapitre 3 de la Genèse, qui théologiquement a une très grande importance, je crois. Je crois que les 11 premiers chapitres de la Genèse ont quelque chose de tout à fait particulier. Ce n'est pas historique, au sens on peut l'entendre historique. C'est un style symbolique, mythique, mais divin, révélé, qui exprime des réalités qui ont existé. Dire qu'Adam n'est pas une personne, ça va contre toute la tradition chrétienne. Et la grande analogie du nouvel Adam, le Christ, alors perd toute sa signification. Le péché originel, tel que l'Église nous le donne dans le Concile de Trente, et Paul VI, sitôt le Concile, avait précisé dans un petit congrès de théologiens qui se tenait à Rome, à la Grégorienne, sur le péché originel, Paul VI s'est dérangé lui-même. Et à ce moment-là, le pape ne se dérangeait pas beaucoup pour aller dire à ces théologiens, le Concile de Trente demeure intact. Et vous devez considérer ce qui est dit sur le péché originel comme la doctrine de l'Église. Vous pouvez essayer de donner une expression nouvelle à ce terme pour que on puisse mieux saisir ce qu'il est, mais on ne peut pas le supprimer. Je comprends très bien que c'est pas drôle du tout d'affirmer le péché originel, puisque nous le portons en nous, comme conséquence. Alors on voudrait bien en être libéré. Mais d'autre part, je crois que si on supprime le péché originel, la grande vision sur le mystère du Christ, je parle au point de vue tradition de l'Église, perd tout un aspect que je ne dis pas qui est le principal, mais qui est essentiel. Alors, immédiatement après la faute, ils entendirent le bruit des pas d'Yahvé. Il y avait Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Et le symbolisme là continue, hein, parce que entendre la promenade nocturne ou du soir de Yahvé, c'est quand même pas mal, hein. Ils entendirent le bruit, entre parenthèses, parenthèse des pas de Yahvé qui se promenait dans le jardin, à la brise du jour. Vous savez, c'est le vieux dicton du Rwanda, pour montrer la beauté du Rwanda, là où les dieux passent leur nuit. Je ne le dis pas dans la langue où c'est dit, mais je trouve ça merveilleux, pour montrer que ce pays est le plus beau pays du monde. J'ai dit ça une fois à un Colombien, il m'a dit « Ah non, c'est faux, c'est en Colombie. » Pour me dire que les deux pays qu'on considère comme les plus beaux du monde, Rwanda, Colombie. Mais vous voyez, c'est très joli parce que ça montre ce côté familial, très proche de Dieu. Dieu a donné à Adam l'Éden, un petit jardin. On ne dit pas si c'est style anglais ou style français, un petit jardin. L'urbaniste n'est pas dit. Et Dieu se promenait là. Donc tous les soirs, il y avait la petite conversation avec Dieu. Ce qui était normal. Puisqu'ils étaient fils de Dieu. Ils étaient les chéris de Dieu. Les Benjamins. Les petits derniers. C'est pas dit ça. Mais c'est sous-entendu. On ne dit rien sur la vie d'Adam et Ève avant la faute. Et elle était sûrement dans une très grande intimité avec Dieu, dans la foi. C'est pour ça que tout ça c'est symbolique. Mais c'est possible que Dieu a bien paru à Abraham. Il y avait bien peut-être trois jeunes gens qui se promenaient. Je n'en sais rien, et vous non plus. Donc on a le droit, à partir de ce passage, de dire oui. Ils étaient habitués à ça, les pas d'y aller. Vous voyez, la cloche du soir, vos récréations avec le Seigneur. C'est encore beaucoup mieux qu'une audience, hein. Récréation avec le Seigneur. Ils se promenaient dans le jardin, à la brise du jour. Ils se cachèrent, l'homme et sa femme. Alors ça, c'est nouveau. Ils n'ont jamais fait ça. Avant, ils n'ont jamais eu peur de Dieu. Conséquence du péché d'orgueil. Il y a une brisure à l'égard de Dieu. Alors s'il y a une brisure à l'égard de Dieu, il y a quelque chose qui ne va plus. Ils se cachèrent de devant Yahvé Dieu, parmi les arbres du jardin. Donc ils jouent à cache-cache. Premier cache-cache avec Dieu. Yahvé Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Il dit, j'ai entendu le bruit de tes pas dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Vous voyez, l'anthropomorphisme continue, hein. C'est vraiment un récit tout à fait mythique. Mais il exprime quelque chose, hein. Le mythe révélé exprime quelque chose de réel. La conséquence du péché, c'est qu'il ne peut plus y avoir de familiarité avec Dieu. Il n'y a plus cette connaturalité avec Dieu. Il y a une brisure. On a peur de Dieu parce qu'on a la conscience chargée. On s'est révolté contre lui. On n'a pas obéi. Et Dieu est obligé d'appeler. Où es-tu ? J'ai entendu le bruit de tes pas dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Alors voyez, la nudité apparaît comme une faute. On ne peut plus se présenter à Dieu comme ça. Parce que justement la nudité exprime qu'on se regarde en premier lieu. Qu'on a honte de soi. Alors, parce qu'on se regarde en premier lieu, on ne peut plus avoir la simplicité du regard contemplatif. Soyez simples comme des colombes. C'est Jésus qui réhabilite l'homme dans la simplicité. Et c'est le propre de la grâce chrétienne. Dans la première alliance, l'Ancien Testament, on ne voit pas cela. C'est la crainte, c'est l'adoration qui est première. Par Jésus, la première simplicité est rétablie. Mais prudent comme les serpents, alors c'est autre chose, la complexité. Ce que le père Molinier soulignait dans sa lecture, la dualité qui est en nous, ne peut plus être totalement simple. Alors ici, on voit bien cette crainte. J'ai peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il dit, qui t'a appris que tu étais nu? Ça, c'est merveilleux, l'interrogation de Dieu. Qui veut faire prendre conscience à l'homme de son péché. Et c'est par la nudité qu'il veut faire prendre conscience à l'homme de sa faute, de sa séparation à l'égard de Dieu. C'est assez étonnant, hein, comme conséquence du péché, comme si la première conséquence du péché faisait que l'homme et la femme sont tournés sur eux-mêmes. Et ont ce regard sur eux qui est principal. Et non plus ce regard sur Dieu. Qui t'a appris que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Tu le sais bien. C'est la miséricorde de Dieu, là. Il sait combien c'est difficile d'avouer une désobéissance et une faute d'orgueil. Et vous voyez tout de suite cette première miséricorde. Vous savez, quand une mère apprend à son enfant, une mère chrétienne, apprend à son enfant à se confesser, la première confession. La mère montre, tu te rappelles, hein, tu n'as pas été sage, tu as désobéi. Elle dit ce que le gosse n'oserait pas dire. Et si c'est Dieu? Alors ça, c'est extrêmement beau pour voir que si l'homme se sépare de Dieu, Dieu ne se sépare pas de l'homme. Et c'est le prophète Osée qui dira ça avec une vigueur énorme. Et ici, on le voit tout de suite. Dieu ne se sépare pas de l'homme. Dieu reste uni avec l'homme. Et il le poursuit. C'est Dieu qui l'appelle, où es-tu? L'homme s'est caché, il se cache de Dieu. Donc, il commence sa miséricorde en l'appelant « Où es-tu ?» Il est obligé de dire où il est. Et puis ensuite, il lui dit sa faute. La nudité en soi n'est pas une faute. Mais si on a honte de la nudité, ça provient d'eux. Se regarder n'est pas une faute. Mais si on se regarde en premier lieu, et si on se regarde parce qu'on a peur de l'autre, parce qu'on a peur de Dieu, alors c'est différent. Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? L'homme dit, c'est la femme que tu as placée près de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. comme c'est difficile de reconnaître qu'on est pécheur. Alors je ne dis pas que la femme est placée auprès de l'homme pour que l'homme puisse comme ça se dérober et mettre toutes les culpabilités qu'il a sur son épouse. Quand il arrivera en face de Jésus, Jésus lui dira « Toutes ses fautes, c'est elle. » On voit très bien. C'est curieux, vous voyez, et ça c'est très important. C'est de voir que la faute, le péché, tout de suite, affaiblit notre capacité de responsabilité. Nous empêche de reconnaître notre vraie responsabilité. Puisque regardez celle qui a présenté le fruit, qui a indiqué, c'est quand même pas Ève qui a péché en Adam. C'est Adam qui a péché à cause de la présence d'Ève. Oui, ça d'accord. Mais c'est quand même pas Adam qui n'avait aucune responsabilité. Il était libre. Il aurait pu refuser. Donc il est complice. Et il n'a pas la force de reconnaître sa responsabilité. Je crois que ça c'est... Alors regardez toutes les conséquences du péché. Il y a toute une gradation. Séparation de Dieu, nudité, ou nudité comme première, et puis séparation de Dieu, parce qu'on se regarde en premier lieu. Peur de Dieu, ça fait partie ça, peur de Dieu. L'incapacité donc d'aller vers Dieu pour lui demander pardon. Et Dieu l'aide. Et malgré cela, impossible de reconnaître sa responsabilité. C'est la femme que tu as placée près de moi, que tu as placée. C'est, au fond, c'est toi. En définitive, tu n'avais qu'à pas me donner cette aide. C'est Dieu qui a donné à l'homme Ève. Très étonnant, ça, vous voyez. Comme c'est difficile la fidélité dans l'amour. Quand tout va bien, ça va très bien. Mais dès qu'il y a une brisure, Adam qui a reçu avec tant d'amour, Ève, os de mes os, chair de ma chair, le péché qui le coupe de Dieu, le coupe aussi d'elle. Accuser Ève, c'est pas la charité, c'est pas l'amour. Il la place entre Dieu et lui. Et c'est elle le bouc émissaire. Il ne peut pas supporter cette présence immédiate de Dieu. Alors d'abord il y avait les arbres, puis après il y a Ève. Quand les arbres n'existent plus, qu'il y avait là, il se cachait derrière les arbres. Ici, il se cache derrière Ève. Il avait dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme dit, « C'est le serpent qui m'a dupé et j'ai mangé. » Elle aussi perd le sens de sa responsabilité. Alors, un des motifs, excuse, au point de vue psychologique, c'est remarquable. Le repliement d'Adam et d'Ève, ce repliement sur eux-mêmes, qui fait qu'ils ne voient plus ce qui, de fait, a été le vrai motif. Psychologiquement, comme c'est difficile, de voir le vrai motif. On prend un motif secondaire, une déviation, c'est la femme. Il appelle femme, faut pas oublier. Jésus, quand il parle de Marie, quand il parle à Marie, femme, il y a sûrement un lien. Ici, c'est Adam qui ne veut plus la regarder personnellement. Il la regarde dans sa fonction. À la croix, c'est Jésus qui veut au contraire, à la croix et à Cana, qui veut au contraire la regarder dans ce qu'elle a de tout à fait fondamental, celle qui porte l'iniquité du monde, celle qui porte nous avons ici, c'est très important, le regard de Dieu sur les trois coupables. Et c'est très important pour nous. Ils sont unis dans la désobéissance. Mais au regard de Dieu, il reste trois personnes. Pas une punition collective. Dieu ne fait jamais de punition collective. Au sens fort, il y a le déluge, c'est bien, on dira. Mais il faut bien comprendre ce regard personnel de Dieu. Et la théologie, il faut bien le reconnaître, n'a pas vu avec suffisamment d'importance cette punition de Dieu à l'égard des trois. Ça n'a pas été développé, très peu. On parle des conséquences du péché originel, alors qu'elles ne sont pas les mêmes pour l'homme et pour la femme. Oui, c'est là où on touche bien par le point de vue de la tentation et de la faute. Et du regard de Dieu qui fait comprendre le sens de la fausse, de la faute par le point de vue de la punition. C'est la punition de Dieu qui fait comprendre à Adam sa faute. Autrement, il se serait replié sur lui-même. Yahvé Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Sur ton ventre tu marcheras et poussière tu mangeras tous les jours de ta vie. C'est un symbolisme extraordinaire. On pousse jusqu'au bout. Hein. Là, il ne faut jamais oublier ce principe d'exégèse de Denis. Chaque fois que l'Esprit Saint se sert d'un symbolisme particulièrement grossier, c'est pour nous cacher un secret. J'aime beaucoup ça. Ça ne peut se comprendre qu'en théologie mystique. C'est pas du tout scientifique. Hein. Mais c'est une connaissance profonde de l'Écriture par rapport à son auteur principal. Et ici, on voit très bien. C'est très grossier, ça. Maudit sois-tu entre tous les bestiaux. Et toutes les bêtes des champs, sur ton ventre tu marcheras, et poussière tu mangeras tous les jours de ta vie. C'est évident quand on regarde le serpent. C'est pourquoi j'ai péché originel qu'il rend. Ben, ne dites pas ça, surtout. Hein. Qu'avant, il avait des pattes et puis il marchait. Non. Faut pas dire ça. Mais on voit très bien comment certains peuvent le dire. C'est pas ça du tout. On pousse un symbolisme jusqu'au bout. L'animal rusé. Et si l'animal qui avance en rampant sur ton ventre, tu marcheras. Et poussière, tu mangeras. Tous les jours de ta vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne vole pas très haut. Et que le démon, par le fait d'être, essaie par tous les moyens de nous prendre le plus bas possible. On verra ça. Et c'est ça que ça veut dire. Gardez l'horizon du serpent. Ça va pas très haut. Hein. Et on souligne ça. Et on souligne ça en face de l'homme. L'homme a été attiré par le serpent, la femme. Parce qu'il y avait même horizon. Le dialogue peut se faire. Dieu l'a mis au serpent une nouvelle punition pour ne pas apparaître comme égal de l'homme. Il y a cela, hein. Il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est pas son intelligence qui est touchée, mais c'est sa démarche. On comprendra cela quand on regardera l'Apocalypse. Ici, ça reste symbolique. Mais il y a quelque chose. Hein. C'est quand même une punition de Dieu. Parce que Dieu veille sur Adam et Ève. Et Dieu n'aime pas qu'on détruise son chef-d'œuvre. Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te visera à la tête, et toi, tu la viseras au talon. Mystère de la croix. La descendance de la femme. Mystère de la croix, exprimé ici. À la croix, le démon est persuadé d'être victorieux. Enfin, il va se taire. Et extérieurement, c'est vrai. C'est une victoire du démon. Enfin, c'est sûr. C'est un échec effrayant. Trahi par un disciple sur les 12. Condamné à mort comme un malfaiteur, un blasphémateur. De toute sa dignité est considéré comme un esclave, et ceci à 33 ans. C'est une victoire fantastique, mourir dans la plus grande pauvreté et la plus grande humilité. Alors, y a-t-il allusion avec le coup de lance? Je mets un point d'interrogation. À la femme, il dit, je multiplierai ta peine et tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Vers ton mari se portera ton désir et lui dominera sur toi. Voilà le déséquilibre.
Se servir de la fragilité de la femme dans son désir vers lui pour dominer plus. Tout ça, conséquence du péché. On ne parle pas du mystère de la grâce qui reprendra tout. Comme disent les pères de l'Église, comme dit saint Augustin, la grâce est une grâce sanance. C'est-à-dire une grâce qui guérit les conséquences du péché. Et donc, la grâce chrétienne va se porter d'une façon très particulière vis-à-vis de cette blessure pour la femme. Et à l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Il ne dit pas la parole, il dit la voix. Ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Vous voyez comme c'est répété, hein? Tu n'en mangeras pas, tu n'en mangeras pas, tout le temps, cette répétition, pour bien montrer la force du commandement négatif. Maudit soit le sol à cause de toi. L'homme doit dominer la terre par son travail. travail de l'homme va devenir pénible. Maudit soit le sol à cause de toi. Dans la peine, tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Ce sont des épines et des chardons qu'il fera germer pour toi. Et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ton retour au sol, car de lui tu as été pris, car poussière tu es, et à la poussière tu retourneras. L'âme spirituelle ne va pas dominer pleinement et totalement sur la potentialité du corps. Et la mort va s'introduire, ce que Dieu dit, ce que Dieu avait prédit. Si tu manges, tu mourras. C'est pas immédiate. Dieu veut laisser la nature humaine intacte. Mais la nature humaine est blessée dans un état de corruption. Toute la grande tradition chrétienne, catholique, brisée par Luther, a fait la distinction entre nature et état de nature. Au plan théologique, pour bien comprendre ce qui est dit ici, la nature humaine demeure la même, parce que l'intelligence de l'homme n'est pas touchée par le péché. Mais sa volonté, sa capacité d'aimer est blessée. Son état, sa manière d'exister. L'état, c'est le conditionnement. Puisque ce n'est pas la nature dans sa structure. C'est le conditionnement de l'homme. Vous voyez, point de vue psychologique, comme c'est intéressant. De tout de suite noter ça. C'est le conditionnement de l'homme qui est changé. À la place de tout faire dans la joie et dans la gloire, ce sera dans la souffrance. La souffrance apparaît immédiatement, conséquence du péché. La femme, dans le mystère de la fécondité, dans le mystère de la naissance, l'homme dans son travail. C'est pas étonnant que quelquefois le boulot est un peu lourd, hein, conséquence du péché. À la place d'être un travail où on voit que le travail nous ennoblit, que le travail nous permet de passer de l'imperfection à la perfection. Le travail devient quelque chose qui est lourd. D'où le dégoût à l'égard du travail. Et on ne cherche plus à le faire pleinement comme on devrait le faire. Ce sont des épines et des chardons qu'il fera germer pour toi. Et tu mangeras l'herbe des champs. Voilà, tu seras réduit à ça. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ton retour au sol, car c'est de lui que tu as été pétri. Il y aura toujours une saveur de poussière, alors que Dieu avait voulu une harmonie parfaite entre le point de vue spirituel et le point de vue sensible. Et l'harmonie parfaite est brisée. Mais la nature humaine reste la même. Il y a une continuité. Adam demeure chef de l'humanité. prince de l'humanité. Et c'est pour ça que sa faute a des conséquences sur tous ses descendants. C'est un privilège qu'Adam seul a eu. Et même Jésus ne lui enlève pas ce privilège. C'est ça qui est extraordinaire. C'est l'œuvre du Fils qui respecte l'œuvre du Père. Ève reste la mère de tous les vivants. Et Adam reste le Père de tous les vivants. Là, je vous donne la doctrine de l'Église. Selon toute la grande tradition. Et l'Église n'a pas bougé là-dessus. Les théologiens cherchent beaucoup. Mais attention, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Je ne vais pas traiter avec vous le péché originel. Ça vaudrait la peine. Il faudrait toute une session pour voir comment il a été traité au cours des ans. Dès que l'Église a pris conscience de ce que c'était que le péché originel. Le péché originel pour nous, vous voyez, il n'est pas originel de façon absolue. Il est péché de nature pour nous. Première faute, faute de nature, pas faute personnelle. J'en peux rien d'avoir Adam comme grand-père. J'en peux rien. Mais Dieu a voulu qu'il y ait cette unité dans l'espèce humaine. Alors là, je crois que ça touche la sagesse de Dieu. Et nous ne pouvons le comprendre parfaitement que dans la lumière du corps mystique. C'est le mystère du corps mystique qui m'éclaire sur cette unité fondamentale de l'espèce humaine. Et qui me fait comprendre comment la grâce ne supprime pas la nature. Comment la grâce ne détruit pas la nature. Comment la grâce vient d'en haut pour tout reprendre divinement et ne supprime pas la nature humaine par où je suis descendant d'Adam et Ève. Par où je suis lié à Adam et Ève. Donc il y a là un mystère qui est très difficile dans notre monde d'aujourd'hui. Surtout si on prend la théorie de l'évolution comme une théorie absolue. Parce que là, on ne comprend plus. Comment voulez-vous que le pauvre Adam et la pauvre Ève puissent être chefs de l'humanité dans la perspective de l'évolution absolue? Alors que toute la tradition et la révélation, saint Paul, et la comparaison des deux Adams montrent un Adam chef de l'humanité, principe de l'humanité, donc responsable de toute l'humanité, bien plus beaucoup plus responsable qu'un père par rapport à ses enfants, beaucoup plus, parce que nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève, tandis que Adam et Ève, dans la perspective de la tradition d'Église. Et Paul VI a dit que cette tradition est vénérable et qu'on n'a pas le droit de la renverser. Du reste, alors on comprendrait. Il y a des tas de choses qu'on ne comprendrait plus du tout. On devrait se mettre à corriger beaucoup de textes de l'Écriture. Au nom de quoi? D'une théorie scientifique qui peut très bien être relativisé. Vous voyez? Tandis que la foi vole à un autre niveau. Elle ne me dit pas le comment. Comment ça se fait que nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève, et que nous avons tous le péché originel en venant au monde. C'est vrai, là, il y a un mystère, pas commode à porter, puisque on en subit les conséquences. Conséquences du premier péché. Conséquences du premier péché. Où on voit que les conséquences de ce premier péché a des répercussions jusque notre terre. Ça aussi, on a beaucoup de peine à comprendre. Et c'est dit pourtant. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ton retour, car c'est de lui que tu as été pris, car poussière tu es, et à la poussière tu retourneras. Donc, à cause du péché, Dieu donne à l'homme une conscience beaucoup plus aiguë qu'il est lié à la terre, à la poussière. Autrement dit, l'emprise de l'âme, il faut aller jusque-là. L'emprise de l'âme sur le corps était plus parfaite dans l'état de justice originelle. Grâce à un don de Dieu, les dons préternaturels, comme disent les théologiens, et que l'âme humaine, après la faute, reste toujours ce qui détermine le corps, mais le corps n'est plus totalement déterminé. Saveur de poussière. Quand l'âme informe le corps, ce n'est plus de la poussière. Cathédrale de molécules, comme disait ce professeur de médecine, chaque fois que je vois un être, un vivant, un homme venir à moi, je dis quelle belle cathédrale de molécules. C'est très beau, je trouve ça merveilleux. Je ne dis pas, oh, c'est un mot de poussière, saute dessus, c'est un mot dans tous les hommes. Non. Cathédrale de molécules, cette organisation étonnante. Et plus la science biologique avance, plus on voit que c'est une organisation mais extraordinaire. Et pourtant, saveur de poussière. Tu es poussière, tu retourneras en poussière. C'est très étonnant ce regard de Dieu qui et le Père qui châtie, qui punit l'orgueil. Et qui punit l'orgueil par amour pour Adam et Ève. Il veut les sauver. Et donc, il veut les éduquer et les reprendre en main. Il les reprend en main, femme et homme, face au serpent, d'une nouvelle manière. La lutte sera plus forte, une inimitié entre toi et la femme. Parce qu'il y a une proximité plus grande. La femme n'en peut rien. Le Seigneur souligne, Yahvé Dieu souligne, qu'il y aura une inimitié plus forte. Pourquoi ? Parce que de fait, il y avait un plus grand amour de Dieu pour la femme, la petite Benjamine, et que sa faute a en quelque sorte blessé plus. Les pères de l'Église le disent expressément. La femme a perdu la foi par orgueil. Et donc elle a blessé plus profondément. D'où cette conséquence du péché qui va plus loin. Mais en même temps, dans l'économie divine, la femme joue un rôle très unique, prépondérant. C'est un fait. On peut chercher pourquoi, mais c'est un fait. Elle est créée la dernière, selon le second récit de la création dans la Genèse, donc la Benjamin, et la plus aimée. Elle est celle qui est entrée dans le dialogue avec le serpent, qui a péché la première. Elle est celle que le Père corrige, châtie d'une manière plus intime. C'est son amour, son cœur. Et puis l'ennemi sera plus proche d'elle. Et en même temps, l'amour de Dieu pour elle demeure. Elle est toujours la Benjamin. Et donc la plus aimée. On corrige plus quelqu'un qu'on aime plus. On corrige de façon plus intime, plus forte. La femme subit une correction plus profonde. Et cette correction pour nous, c'est en vue du mystère de Marie. Alors vous comprenez comment l'inimitié entre le serpent et Marie est à son